Dieu a des âmes, une mission qui grandit. Et aujourd'hui, le chapitre qui nous intéresse, c'est le chapitre 1. Et ce chapitre, il commence de la manière suivante, par une attente. Il y a un livre qu'on aime bien lire à la maison qui s'appelle « Attendre n'est pas facile ». Gérald, j'ai une surprise pour toi. Oh, génial, c'est quoi ? Oh, la surprise n'est pas encore là. Oh, la surprise n'est pas encore là. Il va falloir attendre. Je lis Acte au verset 1, au chapitre 1, le verset 1 à 14. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans cette première partie, j'aimerais brièvement vous parler du contexte dans lequel ce passage s'inscrit. Le point de départ du livre des Actes et le point de départ de notre foi, c'est la résurrection. Jésus avait été mis à mort, mais Dieu l'a fait revenir à la vie. C'est le point de départ de notre foi. En effet, une manière d'envisager cette foi, c'est le fait de croire que Dieu a complètement triomphé sur la mort. Cette mort qui, si on y réfléchit, est notre ennemi numéro un. Cette mort qui se décline sous toutes sortes de manières dans nos vies. Des familles déchirées, du chômage, des échecs, des maladies, la guerre et bien sûr la mort au sens littéral. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, Dieu montre que la mort n'a pas le mot final. Cette présence, cette première victoire sur la mort, elle en a introduit d'autres. Elle a introduit une ère nouvelle, celle de la mort qui recule et de la vie qui triomphe. C'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure qui soit. C'est l'Évangile. Cet Évangile, Jésus a commencé à le vivre et à le proclamer. Et il nous invite à sa suite à le vivre et à le proclamer. Ainsi, ce que Jésus a fait et ce qu'il a enseigné devient un modèle pour nous de ce que nous sommes appelés à faire et à enseigner. Il y a des actes qu'il nous appelle à réaliser, aimer, servir, guérir, délivrer. Il y a des paroles qu'il nous appelle à avoir, prophétiser, proclamer le salut, appeler à la repentance. Et au passage, petite parenthèse sur le témoignage. Dans le Nouveau Testament, le témoignage est toujours des actes et des paroles ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Si on s'en tient uniquement à présenter l'Évangile avec des mots, ce ne sera pas très porteur. Mais nos actes non plus ne suffiront pas à parler de la vie de résurrection dont Dieu nous a fait don. Si on disait que c'est le cas, c'est un peu comme si on disait qu'il suffit de regarder la création pour savoir qui Dieu est et ce qu'il veut de nous. C'est vrai que la création, elle témoigne avec puissance et sans mot de qui Dieu est dans nos vies, de qui Dieu est dans ce monde. Mais la Bible, la parole de Dieu, est un complément essentiel pour clarifier qui est ce Dieu que nous percevons dans la création. Je ferme la parenthèse et j'en arrive à ma deuxième partie. Dans la première partie, on a parlé du contexte de la résurrection ayant introduit une ère nouvelle. Mais ce qui fait aussi partie de notre contexte actuel, c'est un contexte d'attente. De manière générale, comme le disait le texte, nous sommes dans cette attente que cette ère nouvelle introduite par la résurrection de Jésus s'installe complètement. Ce contexte d'attente, il était présent quand Actes a été écrit et il est toujours présent aujourd'hui. La puissance de la résurrection à l'œuvre dans notre monde a commencé à faire reculer la mort. Mais le triomphe de la résurrection ne sera pleinement là que lorsque Jésus reviendra. Toutefois, il est intéressant de se rendre compte que les disciples ne sont pas spécialement dans l'attente de cette seconde venue. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a là, maintenant, ici, leur contexte actuel. Ils réalisent que l'irruption de la résurrection dans le monde a introduit un combat de la vie avec un V majuscule, cette vie qu'ils ont reçue de Dieu, ce combat de la vie contre la mort. Et ils désirent de tout leur cœur prendre part à ce combat aux côtés de Dieu. Mais ils savent que pour cela, Dieu le leur a dit, Jésus le leur a révélé, ils ont besoin d'être revêtus par sa puissance, par son esprit qui vient pleinement les habiter. Ce que les disciples attendent donc dans ce passage, c'est la venue du Saint-Esprit. Et ce qui caractérise leur manière de l'attendre, c'est une attitude de foi. Dans leur attente, ils s'attendent à la puissante action de Dieu. Ils s'attendent à la venue de l'Esprit-Saint qui va permettre de conjuguer les actes de Dieu et les actes des hommes de telle manière à ce que le royaume de Dieu grandisse sur cette terre, de telle manière à ce que la puissance de résurrection triomphe davantage dans notre monde. Mais alors, quel est le lien entre l'attente des disciples et notre attente à nous? Y en a-t-il un? Les disciples attendent la venue de l'Esprit-Saint, or nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, je pense que oui, il y a des liens à faire entre leur attente et la nôtre. Le Saint-Esprit nous a été donné, ce fait n'est pas remis en cause. Sa puissance est la même qu'il y a 2000 ans. Le Saint-Esprit ne s'est pas fatigué en 2000 ans et il n'a pas pris une ride. Ça, c'est aussi une certitude. Mais il est possible de l'éteindre et de l'attrister. Ces mots « éteindre » L'esprit attristé, l'esprit, sont tous les deux des mots qui sont présents dans le Nouveau Testament et qui concernent des personnes qui ont reçu l'Esprit Saint. Que se passe-t-il quand nous éteignons l'esprit ou quand nous l'attristons? Alors, pour vous en parler, j'aimerais utiliser une image. On peut comparer le don du Saint-Esprit au don d'une magnifique maison. Tout y est, c'est absolument paradisiaque. Mais même si toute la maison nous a été donnée, on se contente de vivre au vestibule dans lequel on a installé un petit camping misérable, un petit réchaud pour se faire des quick soups et puis le paillasson en guise d'oreiller. Quand nous éteignons ou que nous attristons l'Esprit Saint, nous renonçons à la pleine puissance du don de sa présence en nous. On vit dans le vestibule et on est persuadé que c'est là tout ce qu'on a reçu. On essaye de vivre dans cet espace rétréci tant bien que mal et on a un aveuglement complet sur toutes les autres portes qui s'ouvrent, sur les autres pièces de la maison. Éteindre, attrister le Saint-Esprit, c'est rétrécir le don de sa présence puissante dans nos vies. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire éteindre l'Esprit? Alors là, il y a le petit éléphant qui dit « J'en ai marre d'attendre, j'attends plus rien ». On éteint l'Esprit qu'on n'en a plus d'attente vis-à-vis de lui. Et cela se passe quand on focalise notre champ de vision sur tous les domaines de notre vie ou de notre monde où il n'a pas encore triomphé. Si le moment de l'histoire où nous nous trouvons est comme un verre à moitié plein de la puissance restauratrice de la résurrection, nous, ce que nous voyons, c'est le verre à moitié vide. Nous éteignons l'esprit quand nous sommes tellement focalisés sur ce verre à moitié vide que nous en venons à adapter notre manière de concevoir Dieu, notre théologie, à son action et son action dans ce monde, à ce verre à moitié vide. Dieu n'agit pas vraiment. Dieu est vivant, oui, certes, mais bien loin de nous. Les miracles qu'il a opérés, les guérisons, les délivrances, les révélations de lui-même dans des visions, les anges qu'il a envoyés, c'était bon pour le livre des Actes. Mais c'est plus pour nous aujourd'hui. Nous n'avons donc pas à nous attendre à l'action du Saint-Esprit. Cette position de foi radicale qui caractérise les disciples dans le chapitre d'Actes 1 n'est pas pour nous. Nous, nous sommes des gens raisonnables. Nous adaptons notre théologie à ce que nous voyons. Et même, nous adaptons notre théologie à la manière dont nous réfléchissons par rapport à ce que nous voyons. Nous sommes des êtres sensés et empiriques. Nous considérons ceux qui mettent leur foi en l'action d'un Dieu qui agit au-dessus de leur raisonnement empirique comme des obscurantistes, des manipulateurs. Et pourtant, Abraham, Moïse, Josué, Pierre, Étienne, Paul, ce n'étaient pas des gens déraisonnables, ce n'étaient pas des obscurantistes. Mais c'est des gens qui ont appris de manière profonde à soumettre leur propre raisonnement à ce qu'ils observaient. À soumettre leur raisonnement à la foi qui les habitait. La foi, cette immense confiance en un Dieu qui agit. La foi qui fait que, dans l'attente que Dieu fasse plus, on s'attend réellement à ce qu'il fasse plus. Et que cette attente qu'il fasse plus est ce qui dicte nos choix et notre manière de vivre. J'aimerais juste préciser que cette attente qu'il fasse plus, ce n'est pas d'abord une attente orientée sur nous-mêmes, notre bien-être, notre santé, notre compte en banque. C'est une attente que beaucoup d'autres dans ce monde découvrent la vie de résurrection au travers de l'action conjuguée du Saint-Esprit et de la nôtre. Chers amis, si nous refusons que notre foi prime sur toute autre chose dans notre vie, nous éteignons l'esprit, tout simplement pour la bonne raison que nous n'attendons plus rien de lui. Attrister l'esprit. Là, il y a l'éléphant qui dit « Je ne pense pas que ta surprise, ça vaut la peine d'attendre. » Attrister le Saint-Esprit. Quand cela se passe-t-il? Nous attristons le Saint-Esprit quand nous n'avons pas d'attente par rapport à nous-mêmes. La seule chose que nous voyons de la bonne nouvelle, c'est que Dieu fait grâce. Dieu pardonne tout et Dieu n'exige rien de moi. Ce n'est pas complètement faux et c'est archi faux, les deux à la fois. Nous ne pouvons rien faire pour mériter la vie que Dieu nous offre. Ça, c'est vrai. Dieu fait complètement grâce. Et une telle grâce, une telle abondance de grâce, mais ça nous dépasse complètement. En même temps, nous ne pourrons jamais nous approprier la vie de Dieu sans repentance dans nos vies. Cette repentance, ce fait de prendre conscience à quel point tout ce qui nous habite n'est pas forcément bon et légitime dans nos vies. Tous les choix que nous avons pris n'ont pas été les meilleurs, porteurs de la liberté qui se trouve dans la vie que Dieu veut nous offrir. Tous les sentiments qui nous emplissent, qui nous animent à l'intérieur de nous-mêmes, ne portent pas forcément les marques de sa vie en nous, sa bienveillance, son pardon. C'est en prendre conscience et se le dénoncer dans la prière. C'est demander à l'Esprit de venir remplir cet espace que nous avons ainsi créé en dénonçant ce qui dans notre vie l'attristait. Mes amis, ne pas avoir d'attente par rapport à nous-mêmes, c'est choisir le chemin de la passivité spirituelle. C'est un chemin où nous ne cherchons pas à collaborer avec Dieu dans cette bataille qui nous oppose à la mort dans nos propres vies. Au lieu de nous opposer à la mort, nous laissons cette mort nous envahir nous-mêmes sous toutes sortes de formes différentes. La mort sous forme d'addiction, de colère noire, d'amertume, d'esprit critique, de désir sexuel qui nous dirige et d'autosuffisance. Éteindre l'esprit, comme le fait de renoncer à cette attente pleine de foi qui caractérise les disciples dans Acte 1. Attrister l'esprit, comme le fait de renoncer à l'attente d'être pleinement envahi par sa puissance de résurrection dans nos vies. Au début de cette année 2018, que faire pour quitter le mode avion qui caractérise si souvent nos vies? Ce mode où nous n'attendons plus rien de Dieu, où nous n'attendons plus rien de nous-mêmes et où nous déconnectons de l'Esprit-Saint parce que nous l'éteignons ou nous l'attristons. Et c'est par là que j'aimerais terminer ce message aujourd'hui. La semaine passée, Nicolas a introduit le livre des Actes en nous enjoignant à prendre la vague de ce que Dieu est en train de réaliser dans ce monde. Prenons la vague du royaume de Dieu qui a pénétré notre monde. Et pour prendre cette vague, tout commence par avoir cette attente que la vague du royaume de Dieu déverse sa puissance de résurrection dans notre monde. Que cette vague du royaume de Dieu fasse une différence dans nos propres vies, dans notre vie d'église et dans notre monde. Tout se poursuit par l'attente qui grandit en nous de pouvoir participer à cette œuvre de vie avec un V majuscule. Être témoins ensemble par nos actes et nos paroles de la vie de résurrection, une vie de paix, de joie, d'espoir, de restauration, de guérison qui se trouve en Dieu. Cette attente qui grandit en nous, c'est cette attente que le Saint-Esprit ait toute sa place dans nos vies et dans celle de notre communauté dans son ensemble. C'est cette attente qu'il agisse en nous et au travers de nous pour que notre monde soit réconcilié avec Dieu. Alors pour Noël, André nous a offert une magnifique plante. Il a voulu nous faire une leçon d'objet qui nous parle et il nous a dit « Chers amis, vous ne pouvez rien faire pour que cette plante fleurisse. Quelle belle image pour cette vague de résurrection que Dieu déverse dans notre monde. » Et effectivement, c'est Dieu qui est à la base de cette vague, sa puissance, son amour, son salut. On ne peut rien faire pour produire cette vague. Seulement, il y a un hic. Et je m'excuse, André, mais on t'a tellement bien pris au mot qu'on a oublié d'arroser la plante. Et le résultat n'est pas complètement convaincant. Imaginez maintenant que votre vie ou la vie de notre communauté soit une plante. Celle-là, elle est bien arrosée. Arroser cette plante pour qu'elle grandisse sainement, c'est être plein de cette attente que l'Esprit-Saint vienne nous inonder de sa présence encore et encore. C'est ça que nous faisons. Nous nous plaçons dans cette attente de confiance. Alors, est-ce que cette attente, elle fait partie de nos vies? Est-ce que cette attente, elle fait partie de l'ADN de notre Église? L'attente que la puissance de l'Esprit-Saint, c'est ce mot qui est utilisé dans Acte 1, puissance. L'attente que la puissance de l'Esprit-Saint nous habite complètement, pleinement, nous remplisse pleinement, pour que d'autres découvrent la vie glorieuse qui se trouve en Dieu. Je m'arrête là juste un moment et je vous pose cette question. Cette semaine, est-ce que vous avez appelé l'action de l'Esprit-Saint dans votre vie et dans la vie de ce monde? Répondre à cette question, c'est une bonne manière de savoir à quel point vous êtes dans cette attente que l'Esprit-Saint agisse dans ce monde, dans vos vies. Voilà la surprise, c'est les étoiles. Et je trouvais que c'était beau parce que ça me faisait penser à la promesse qui a été faite à Abraham. Tu auras une descendance plus nombreuse que les étoiles dans les cieux, ou aussi nombreuse que les étoiles dans les cieux. Je crois qu'au début de cette année 2018, j'ai de quoi grandir dans cette attente. Nous avons de quoi grandir dans cette attente. Grandir individuellement et ensemble dans cette foi que l'Esprit-Saint désire combattre toutes les formes de mort qui nous habitent à l'intérieur de nous-mêmes. Grandir individuellement et ensemble dans cette foi que nos collègues, nos amis, nos voisins rencontrent l'auteur de la vie. Grandir individuellement et ensemble dans cette foi que tous les fils prodigues de cette communauté retrouvent le chemin de la maison du Père. Et ce matin, je vous invite à vous placer devant Dieu, à vous mettre en route, en mouvement, sur ce chemin que les premiers disciples nous ont ouvert. Un chemin de foi, où la foi prime sur toute autre chose. La foi, c'est quoi? C'est un mouvement de confiance radicale qui attend, qui s'attend à l'action de l'Esprit-Saint dans notre monde et dans nos vies. La foi, c'est une mise en mouvement de notre part. Et cette mise en mouvement, elle commence à l'intérieur de nous-mêmes. Premièrement, c'est faire ce pas de renoncer dans la repentance au fatalisme, au misérabilisme, au raisonnabilisme, à l'autosuffisance, qui peuvent être là de manière parfois très insidieuse dans nos vies. Deuxièmement, c'est le fait de décider de renouveler sa confiance jour après jour, qu'il est juste et bon de s'attendre à Dieu, malgré tous les points d'interrogation qui demeurent dans nos vies. C'est renouveler cette attente, cette confiance que dans l'attente qu'il agisse, il nous demande de nous placer dans cette confiance qu'il va agir. La position qu'il nous demande, c'est une position de foi envers et contre tout. Et ce n'est pas une position suicidaire, car c'est en lui qu'il nous demande de placer cette confiance, en lui, en nul autre. Dans l'attente, les disciples, ça nous est dit dans le chapitre 1 de Actes, ils ont persévéré dans la prière. Tous persévéraient ensemble d'un commun accord dans la prière. Dans l'attente, dans cette attente qu'il agisse encore et bien plus dans cette église, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Persévérer d'un commun accord dans cette prière. Nous encourager les uns les autres à nous attendre à lui. Nous encourager les uns les autres à un mouvement de foi radical en lui. J'aimerais terminer dans la prière. Et aujourd'hui, si tu désires signifier à l'Esprit Saint une attente qu'il agisse dans ta vie ou dans la vie de cette Église, je t'invite à te lever. Père, Fils, Saint-Esprit, nous te confessons toutes les fois où nous t'avons éteint ou attristé, toutes les fois où nous t'avons attristé parce que nous nous sommes contentés d'une demi-vie à l'intérieur de nous-mêmes, où nous n'avons plus eu d'attente de ce que tu pouvais faire en nous. Toutes les fois où nous t'avons éteint, parce que nous n'avons plus eu d'attente par rapport à ce que tu pouvais faire dans ce monde. Saint-Esprit, aujourd'hui, de manière renouvelée, nous te confions nos vies, nous te confions la vie de cette communauté. Nous te disons que nous t'appartenons et que cette Église t'appartient. Viens, remplis-nous de ta présence puissante. Saint-Esprit, nous nous attendons à ta puissance, à ta puissante œuvre de vie, de résurrection dans nos vies, dans la vie de notre Église et dans ce monde. Amen.